Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, ravi de vous retrouver pour le lancement de l'émission De maths et de mots, le podcast qui fait dialoguer maths et philo, ou du moins un mathématicien et une philosophe. Notre but, vous aider à appréhender les grands enjeux mathématiques et à réfléchir sur les maths. Bonjour Aurélien.
Bonjour Smila.
Plus particulièrement, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du langage mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire que de parler en langage mathématique, c'est-à-dire de construire une réflexion avec des outils de maths? Et comment est-ce qu'on peut faire parler ces outils? La démonstration, la preuve, l'axiome, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire concrètement « parler en langage mathématique ». Pour entrer en matière, on peut déjà se demander si les maths peuvent être appréhendées comme une langue étrangère. Est-ce que pour vous, apprendre les maths, c'est comme apprendre une langue? Et comment est-ce que vous envisagez plus globalement votre pratique des maths?
Je dirais qu'il y a trois aspects un peu différents dans ma pratique quotidienne des maths. Bon, d'une part, il y a mon métier d'enseignant. D'autre part, je fais de la recherche. Et puis, enfin, je fais pas mal d'activités de médiation, vulgarisation. Alors, je ne vois pas du tout ma pratique des maths comme l'apprentissage d'une langue étrangère. Et en tout cas, j'essaie de faire passer le message, en particulier quand je fais de la médiation, que je suis face à un public peu familier avec les maths, que c'est tout sauf une langue étrangère qui serait réservée à certains, à une élite quelque part. Mais qu'au contraire, tout le monde peut faire des maths, qu'il y a des choses à la portée à tous les niveaux, qu'il y a des pépites mathématiques quelque part à tous les niveaux, du plus élémentaire au plus sophistiqué. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième, c'est que je vois le langage mathématique comme assez universel, dans le sens que les maths qu'on pratique ici à Lyon, ce sont les mêmes à l'autre bout de la planète. Il n'y a aucune difficulté pour un mathématicien lyonnais à lire les travaux d'un collègue, disons, japonais. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux mathématiciens, c'est cette universalité. Et plutôt qu'une langue étrangère, moi j'aurais plutôt envie de faire le parallèle entre les maths et une activité comme la musique. Là aussi, il y a quelque chose d'universel, je pense, dans la musique et donc du coup dans ces deux activités. Mais bien sûr, dans les deux cas, à un moment donné, on a besoin d'un langage pour capturer les choses, pour essayer de les cerner le plus finement possible et puis ensuite pouvoir les communiquer et puis voir les transmettre dans le temps. Donc à ce moment-là, il y a besoin d'un langage. Et je pense que pour la plupart des chercheurs en maths, le langage mathématique sert précisément à capturer des idées et des concepts qui sont là, indépendamment de nous. Et du coup, c'est au moment de capturer ces idées et ces concepts que, dans ce deuxième temps, vient toute cette problématique autour de la langue et de bien nommer les choses. Et ça peut paraître un peu secondaire, parce que le nom qu'on donne à un concept mathématique, a priori, on peut donner n'importe quel nom. Mais en fait, les mathématiciens, ils sont pour la plupart extrêmement sensibles, très sensibles, et ils choisissent le mot de leur langue. Par exemple, quand ils écrivent un article en français, ils choisissent le mot qui cerne le mieux possible, qui donne l'image la plus parlante du concept capturé. Et du coup, en répondant à cette question, je m'aperçois que je mélange un peu deux choses. Enfin, je parle des maths comme d'un langage, c'est vrai. Mais on voit qu'il y a un lien aussi avec la langue. Et en fait, je ne suis pas vraiment sûr d'avoir les idées parfaitement claires sur la différence entre langue et langage. D'autant plus que la pratique quotidienne du mathématicien, c'est précisément de se frotter au langage mathématique dans sa propre langue.
Mais en fait, je pense qu'on pourrait résumer la différence entre les deux, entre langue et langage, par un degré de généralité différent. D'un côté, le langage, ça va être l'expression verbale d'une pensée en général. En gros, le langage, c'est la faculté générale qu'on a de communiquer par un système de signes. On peut par exemple parler du langage humain, de l'ensemble des manières dont les humains s'expriment. Et de l'autre côté, la langue, c'est beaucoup plus situé. Une langue, c'est tel ou tel système linguistique dans une société ou un groupe donné. Une langue, ça va donc être une sorte de sous-catégorie du langage qui est située dans le temps et dans l'espace. On peut dire par exemple la langue française, allemande, grecque, etc. Donc la langue, vous l'aurez compris, c'est plus restreint, et notamment parce qu'en général, ça renvoie à une grammaire et un vocabulaire qui sont bien définis. Et de manière encore plus restreinte, la langue, ça peut être la manière particulière dont un groupe écrit ou parle. On peut dire par exemple la langue du sport, la langue des cartésiens, la langue des jeunes et peut-être même la langue des mathématiciens. Mais donc il semble que ce serait plus juste de parler de langage mathématique si on veut insister sur cette dimension universelle dont vous avez parlé.
Mais du coup, si je reviens sur cette histoire de langue étrangère, en fait, qui m'interpelle un peu, j'aimerais bien savoir comment c'est perçu, comment sont perçues les mathématiques par les gens qui ne sont pas mathématiciens professionnels. Est-ce que vraiment c'est perçu comme une langue étrangère? Est-ce que plus précisément, enfin, exemple, est-ce qu'on a envie, quand on n'est pas scientifique, de dire que la biologie, c'est une langue étrangère?
Je pense qu'avant tout, c'est une conception qui doit provenir d'une représentation, enfin d'une mauvaise représentation, sans doute, qu'on se fait des maths en vertu de leur apparence extérieure, entre guillemets, c'est-à-dire en vertu des figures géométriques, des symboles, des conventions, etc. On a peut-être l'impression que ce serait une langue en fait écrite dans un alphabet qui n'est pas le nôtre. Donc ce serait d'une part une langue parce qu'elle nous permet de coder différents problèmes dans un système de signes, et d'autre part une langue étrangère parce qu'elle nous est inconnue ou parce qu'elle nous apparaît presque mystérieuse. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression que les mathématiques enjoignent la conversion de problèmes dans un langage mathématique. Et donc là, on pourrait presque avoir l'idée qu'un problème peut être traduit par une équation avec des symboles, etc. Et pour répondre plus précisément sur la différence avec, par exemple, la biologie ou la physique, c'est peut-être tout simplement parce que ces disciplines se laissent moins facilement réduire à un système abstrait, parce qu'il y a peut-être un rôle plus important donné à l'expérimentation. Pour revenir sur l'idée de langue ou de langage, on entend souvent l'idée que les mathématiques seraient un langage formel, ou du moins qu'elles renverraient une impression de formalisme. Pourtant, il y a bien des degrés de formalisme. Il y a bien un écart entre le langage qui va être celui du prof qui enseigne une preuve, par exemple, le langage dans lequel les élèves vont la recopier, et le langage qui permettrait à la machine de la vérifier. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que ça voudrait dire que certains langages utilisés dans les maths seraient, entre guillemets, plus mathématiques que d'autres?
Alors, donc vous avez parlé de langage formel. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mathématiques pratiquées au quotidien par les mathématiciens professionnels ne sont pas si formelles que ça. En fait, tout est une question de dosage et ça dépend de plein de paramètres. Bon, pourquoi formaliser? Il y a quelque chose d'objectif, c'est que plus on formalise les choses, plus on gagne en précision. Et c'est certain qu'en mathématiques, on aime bien parler de choses parfaitement bien définies où aucune place n'est laissée à l'ambiguïté. Parce que quand il y a de l'ambiguïté, eh bien évidemment, ensuite, les gens ne comprennent pas, n'interprètent pas la même chose. Donc on fuit l'ambiguïté. Donc il nous faut un langage précis et donc on formalise un peu les choses. Le degré ultime de la formalisation, si vous voulez, ça serait d'être capable de formaliser ce qu'on fait, nos définitions, nos énoncés, nos démonstrations, au point qu'une machine puisse vérifier qu'aucune erreur ne s'est glissée dans les raisonnements et les constructions. Donc là, c'est le point ultime de la formalisation. Et alors, pourquoi ça a un intérêt? Parce que personne n'est à l'abri d'une erreur de raisonnement, d'un cas particulier non pris en compte, etc. Donc, ça serait super qu'une machine puisse vérifier. Mais pour qu'une machine puisse faire ce travail, puisse entre guillemets lire un article de maths, le prix à payer, c'est un degré de formalisation tellement sophistiqué que du coup, les démonstrations et les raisonnements en deviennent totalement illisibles pour les humains. Et ce que la machine lit sans peine, nous est finalement très difficilement intelligible à nous. Et réciproquement, quand des mathématiciens discutent au tableau, il y a tellement de non-dits, d'implicites dans leur discours qu'une machine aurait bien du mal à suivre, même si les choses sont peut-être en train de changer. L'avenir nous dira. Quoi qu'il en soit, il y a un fait, c'est que les articles de recherche en maths ne sont pas écrits dans un langage si formalisé que ça. En tout cas, il n'est pas formalisé au point qu'une machine pourrait les lire. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Ils sont écrits pour que d'autres humains puissent les lire, puissent comprendre les idées Et bien sûr, écrire pour une machine ou écrire pour un collègue, c'est un objectif tout à fait différent. Et d'ailleurs, ils ne sont tellement pas formalisés qu'ils sont écrits, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on travaille dans notre langue, bon, que ce soit en français ou en anglais. En tout cas, les maths sont écrits dans la langue des auteurs. Et bien, même si on trouve, quand on ouvre un article un peu au hasard, on va trouver des formules qui vont paraître tout à fait incompréhensibles pour le profane, cela n'en fait pas pour autant des textes vraiment formels. Donc je ne dirais pas, pour reprendre à votre question, qu'il y a des langages plus mathématiques que d'autres. Je dirais qu'il y a des degrés de formalisation, que c'est le degré de formalisation qu'on choisit, bah, c'est quelque part une sorte de variable qui va dépendre du contexte, du message que l'on souhaite faire passer, de qui reçoit le message. Et bon, ces questions sont là bien sûr en recherche, mais elles sont aussi là en médiation et aussi en enseignement. Et justement, c'est l'une des difficultés, ou l'art d'enseigner, c'est précisément de savoir où placer le curseur en fonction du public qu'il a, pour être capable de faire passer la bonne dose d'intuition sur les objets, mais en même temps, il faut être capable de formaliser suffisamment les choses pour qu'on puisse discuter d'une chose bien définie, bien précisément, et de lever toute ambiguïté.
Alors la question qui demeure, si on considère les maths comme un langage, ça reste de savoir de quoi parle-t-il ce langage ? Doit-on penser comme Galilée que les maths parviennent à parler du monde réel précisément, et du monde réel parce que notre monde serait écrit en langage mathématique ? Je vous lis le célèbre extrait de L'Essayeur dans lequel cette idée est développée. La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur.
Alors, c'est vrai que ce passage est très très célèbre. Bon, alors, ce qui est vrai, c'est que, effectivement, Galilée, puis les gens qui ont suivi, Newton, etc., c'est le départ de la physique mathématique. Et même si, évidemment, les mathématiques qui vont être utilisées pour décrire la physique sont nettement plus sophistiquées aujourd'hui que les simples triangles et cercles. Mais enfin, c'est là la naissance de la physique mathématique. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le mot « humainement ». Quand Galilée dit « sans le moyen desquels, il est humainement impossible d'en comprendre un mot ». Donc il y a énormément de choses qui ont été dites. Enfin, les gens ont beaucoup réfléchi sur le sens du mot « humainement ». Moi, je retiens qu'il y a deux façons de comprendre ce mot « humainement ». La première façon de le comprendre, c'est que la nature, elle serait écrite en langage mathématique. Et du coup, nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre les maths pour comprendre la nature, puisque c'est son langage. Et donc, si on veut la comprendre, il faut apprendre son langage, puisqu'elle parle ce langage. Ça, c'est la première façon de comprendre ce mot « humainement ». Et la deuxième façon de comprendre ce mot « humainement », c'est quelque part l'opposé. C'est de dire non, les maths sont un langage des humains, et c'est le meilleur langage, le meilleur dans le sens le plus précis qu'ils ont à disposition pour parler de la nature.
Pour approfondir la question, on pourrait se pencher sur la lecture que fait Kant de Galilée dans la seconde préface de la Critique de la raison pure. Donc il reprend un peu toutes ces expériences qu'a fait Galilée, et il nous dit que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres projets, et plus loin, qu'il faut forcer la nature à répondre à ces questions, que c'est ça la tâche de la raison. Comment est-ce que ça permet de comprendre le point de vue selon lequel la nature est toujours connue à partir du sujet connaissant, et donc peut-être à partir de ces outils rationnels que le sujet connaissant a, par exemple le langage mathématique ?
J'aimerais rebondir justement sur le mot « nature ». Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, en fait, donc probablement que... Moi, le sens que j'entends dans nature, c'est peut-être probablement pas celui de Galilée, mais en fait, Pour moi, et pas que pour moi bien sûr, les mathématiques font partie de la nature. En fait, il y a Arnold, qui est un mathématicien du XXe siècle, il disait quelque chose comme ça, que les mathématiques, c'est simplement une branche de la physique. C'est d'ailleurs la branche de la physique qui coûte, dont les expériences ne coûtent pas cher. Donc, pour moi, les objets mathématiques, ils font partie de la nature, tout comme cette table, cette chaise, etc. Simplement, ce ne sont pas des objets matériels. Mais ils font partie de la nature, et le mathématicien, c'est simplement le scientifique qui étudie ces objets-là de la nature, qui sont des objets abstraits, mais que vraiment, je vis comme ils existent vraiment. Et ça, c'est une question philosophique ancestrale de savoir si les objets mathématiques existent vraiment, c'est-à-dire indépendamment de nous, si c'est nous qui les créons, etc. Bon, il y a des points de vue différents, mais il y a quand même pas mal de mathématiciens. Bon, il y en a une grande partie qui se moque de ça. Bon, peu importe pour leur pratique, ça les dérange pas. Mais en fait, quoi qu'il en soit, même s'ils s'en moquent, la plupart d'entre nous, on fait comme s'ils existent vraiment. Ils existent vraiment, ils font partie de la nature, cette nature abstraite, tout comme il y a des tas de concepts qui sont... Il y a de choses qui existent dans la nature humaine et qui ne sont pas des concepts matériels. Donc, le mot nature, je le comprends comme ça. Et donc, les maths, pour moi, font partie de la nature.
Donc, il faudrait bien faire la distinction entre matériel et ce qui est réel au sens plus large.
Exactement. Et puis même dans nos vies de tous les jours, il y a plein de concepts qui ne sont pas matériels. Donc, et ils sont là.
Pour revenir au sujet, le langage mathématique apparaît dans le texte de Galilée, me semble-t-il, comme notre moyen de décrypter la nature, ce qui fait que cette nature peut nous parler, et ce qui fait qu'en retour, on peut la faire parler à travers nos maths. Pourquoi est-ce que vous pensez, ou pas d'ailleurs, que les maths sont si puissantes pour exprimer le monde qui nous entoure ?
Alors là encore, ça c'est une question qui a été beaucoup discutée. Le physicien Eugène Wigner, au milieu du XXe siècle, parlait de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences, en particulier dans les sciences physiques. Donc c'est une question de comprendre pourquoi c'est si efficace. J'aimerais citer notre physicien extrêmement célèbre, Richard Feynman, un physicien du XXe siècle, et j'aimerais le citer parce qu'il il apporte une réponse à cette question. Il dit que nous faisons de la physique mathématique faute de pouvoir faire mieux. Donc cette fameuse physique mathématique dont Galilée, si vous voulez, a été le précurseur, que Galilée a lancé. Donc on fait ça faute de faire mieux, et toujours d'après lui, finalement, seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles, et la puissance de la physique vient de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables. Donc, moi, ça me parle, je trouve ça assez clair. Et du coup, ça explique bien que... pourquoi les maths sont si efficaces en physique, en tout cas. Mais du coup, ça pose aussi la question de savoir quelles sont les mathématiques qui sont efficaces en physique. Est-ce que toutes les mathématiques sont utilisées en physique? Et clairement, la réponse est non. Il y a des branches qui ne sont pas du tout utilisées. Et du coup, on peut se demander quelles sont celles qui sont utilisées et s'il y a une raison plus profonde à ça. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile de répondre à ça. Ce qu'on, disons en deux mots, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on voit que les théories physiques, les théories mathématiques qui sont les plus utiles, disons, en physique, c'est celles qui sont riches en structure, en invariants, en symétrie. D'accord ? Et c'est normal parce que notre attention se porte sur l'étude des objets les plus symétriques. Enfin... Les symétries, c'est un objet central en maths. Et donc, en tout cas, je crois assez raisonnable cette idée que seule une partie du réel se prête bien à une description mathématique. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses. Je disais que les maths, pour moi, ça fait partie de la nature, mais ce n'est pas un objet matériel. De même qu'il y a plein de concepts qui font partie de la nature, ils ne sont pas des objets matériels. De même, dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui peuvent être exprimées et bien décrites dans notre langue de tous les jours, disons le français. Mais il y a clairement des situations dans la vie, souvent qui sont difficiles à vivre, où les mots nous manquent, hein, où notre langue est tout simplement impuissante pour décrire la complexité de la situation.
En gros, si je comprends bien, il y aurait donc des langages qui sont propres à décrire différentes situations ou parties du monde. Ça pourrait permettre d'expliquer, par exemple, la diversité des langages qu'on constate effectivement dans les arts. Par exemple, quand on parle selon différents modes, entre guillemets, selon la voix, le corps, le dessin, bon, reste à savoir si on peut appeler ça vraiment des langages. Mais pour en revenir au langage mathématique, je pense que la question, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, elle revient à se demander si, d'un côté, les maths disent quelque chose sur l'être du monde, ou si plutôt, elles constituent un simple modèle, une modélisation du monde, qui sert à des fins de prédiction, par exemple. C'est un peu un topos de l'histoire de la philosophie, et je pense pas avoir une réponse. Mais ça nous permet de voir le genre de problème que pose le fait de parler de langage mathématique. Dans la deuxième partie de cette émission, il va donc être question des manières que l'on a de parler des maths, c'est-à-dire de parler du langage mathématique lui-même. Pour déplacer un peu le sujet, on peut revenir à tous ces mots qu'on utilise pour parler des maths elles-mêmes, le théorème, la démonstration, la preuve, l'axiome, etc. On peut d'abord se dire que ce sont des concepts présents dans toutes les sciences, exactes, expérimentales, sociales ou humaines. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand on les applique spécifiquement aux maths? Par exemple, c'est quoi une preuve mathématique?
Bon, donc c'est clair que toutes les disciplines ont leur jargon, leur méthode, et bien sûr, les maths n'y échappent pas. Alors, je vais répondre sur qu'est-ce que c'est qu'une preuve. Déjà, donc, sur tous ces mots-là, donc, il y a le mot théorème. Donc, je vais dire un petit mot sur le mot théorème, parce que c'est quand même le mot central. Donc, je crois me savoir que ça vient du latin théorema, qui vient du grec ancien lui-même, et qui signifie quelque chose comme contemplation, objet d'étude, spectacle, peut-être même fête. Enfin bon. Bref, un théorème, c'est quelque chose devant lequel on s'arrête et qui donne matière à réfléchir ou à émerveillement. Quand je dis émerveillement, bien sûr, l'émerveillement n'est pas systématique. Ça va dépendre de la sensibilité des personnes. C'est-à-dire que bon, le théorème, c'est le théorème, mais bien sûr, moi, je vais pouvoir être émerveillé devant et m'arrêter parce qu'il me parle beaucoup plus, alors que mon collègue d'à côté, ben, il va voir que c'est un théorème, mais lui est plus sensible à d'autres parties des maths et il ne sera pas aussi émerveillé. D'accord ? Quand on se promène dans certains livres de maths, tous ne sont pas écrits... comme il faudrait, mais quand il y a de très bons livres, en fait, c'est un peu comme se promener au musée. On déambule tranquillement, on tourne les pages. Un livre de maths, ça ne se lit pas de manière linéaire. Hein. Donc, on tourne les pages un peu par de la fin, on passe au devant, on tourne un peu dans tous les sens, comme on se promène un peu au musée. Et puis, tout d'un coup, on peut être interpellé par un tableau si on est au musée, ou un théorème si on est dans le bouquin de maths. Et on s'arrête devant, on a envie de contempler et de comprendre. Donc, j'en viens à répondre un petit peu mieux à la question qu'est-ce qu'une preuve ? Bon, comme dans toutes les sciences, l'argumentation joue un rôle fondamental en maths, et même peut-être encore plus en maths qu'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment au cœur de la discipline. Et la démonstration d'un théorème, c'est un mélange de raisonnement, de calcul, qui permet d'affirmer qu'un certain énoncé, à un moment donné, est vrai. Et si on y réfléchit un peu, c'est assez vertigineux en fait. Parce que, prenons un exemple tout simple, disons la somme des angles d'un triangle euclidien, comme on sait, est de 180 degrés. Voilà un théorème qu'on apprend, qu'on a tous appris à un moment donné. Une fois démontré, ce qu'il faut bien voir, c'est que ceci est vrai de tous les triangles. Et ceci est vrai pour l'éternité. C'est-à-dire que ce théorème ne changera pas. S'il n'y a pas de révolution intellectuelle qui fait qu'à un moment donné, ce théorème ne sera plus vrai. Et par ailleurs, comme je dis, il est vrai de tous les triangles, y compris des triangles que personne ne construira jamais parce qu'ils sont trop grands, parce qu'il y a une infinité de triangles et qu'on n'a pas un temps infini à y consacrer. Si on réfléchit à ça, c'est assez vertigineux. Et puis, alors, ce théorème-là en particulier, pour dire un mot sur la preuve, lui, évidemment, il a de très, 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 très nombreuses preuves. Et puis, non seulement il y a de très nombreuses preuves, mais il y a aussi un nombre incalculable de personnes qui ont été convaincues par une démonstration ou une autre. Si on est très, très optimiste, comme nous le sommes, comme tout le monde a appris ce théorème, disons, au collège, il en a vu une démonstration. Et tout collégien a donc compris une démonstration. Et donc, ça fait des milliards d'individus qui ont vu ce théorème et qui ont vu une démonstration. Et personne ne s'est exclamé. Donc, peut avoir un degré de confiance sur la démonstration de ce théorème tout à fait maximal. Mais du coup, pour continuer sur la démonstration, à l'opposé, qu'est-ce qu'on peut dire d'un énoncé qui serait publié dans un journal mathématique, mais quand il y a eu seulement une poignée d'individus, disons 5, 10 experts dans le monde qui sont capables, qui ont relu ça, qui ont été capables de comprendre le cheminement intellectuel complet et de dire moi je suis convaincu. Quand il y a un nombre aussi petit de personnes qui ont vérifié, on ne peut pas quand même exclure qu'une erreur extrêmement subtile ait échappé à ces quelques personnes. Et c'est là que je pourrais boucler sur ce qu'on disait au début, sur la formalisation. Si on était capable, cette preuve de ce théorème que quelques individus peuvent relire, si on était capable de la formaliser au point qu'on puisse confier sa relecture à un ordinateur, eh bien, même s'il y aurait aurait toujours qu'une poignée de personnes capables de comprendre le cheminement intellectuel et pourquoi c'est l'intérêt de cette preuve et tout ça. Mais en tout cas, on pourrait dire que l'ordinateur l'a vérifié. Le problème, c'est que évidemment, quand on a des preuves d'une complexité telle, être capable de les formaliser, c'est un défi absolument gigantesque. Donc ça viendra peut-être, mais on n'est pas tout à fait là. Donc je dirais, pour répondre à cette question, que la notion de preuve, elle dépend beaucoup de à qui on s'adresse et à qui on fait cette preuve. Si on fait une preuve pour du théorème que j'ai cité à un écolier, on va devoir donner plus de détails pour le convaincre et il va y avoir pas beaucoup de trous. Alors que si on s'adresse à un mathématicien et qu'on veut lui faire la preuve de ce théorème, là, dans ce cas-là, on va lui dire c'est trivial. Sous-entendu, en fait, tu peux trouver, boucher les trous tout seul. La notion de preuve est, encore une fois, tout dépend si vous voulez convaincre un ordinateur ou si vous voulez convaincre votre collègue, en fait, vous allez avoir un discours qui est extrêmement variable. Mais alors du coup, ce concept de preuve, il n'est pas qu'en maths. Et alors du coup, est-ce qu'on peut... ça m'interpelle, mais c'est quoi une preuve finalement en philosophie ou ailleurs ?
En général, on présente la preuve comme le parachèvement d'un raisonnement scientifique. Ce sera en quelque sorte la confirmation externe, la partie proprement expérimentale de la démarche. Ça, c'est pour le côté plutôt scientifique. Mais la preuve, de manière encore plus large, c'est tout fait qui puisse permettre d'établir de manière irréfutable la réalité ou la vérité de quelque chose. On peut par exemple penser à une preuve dans le domaine juridique, ou judiciaire plutôt. On peut aussi graduellement déplacer la preuve du côté de l'épreuve, au sens où quelque chose sera prouvé pour nous quand on l'aura éprouvé. Et ici va entrer en jeu le fait de convaincre. La preuve doit me convaincre par la raison, et même peut-être plus encore me persuader. Et je pense que cela pourrait rejoindre votre idée qu'en mathématiques, on peut avoir différentes preuves pour un même théorème qui nous parle plus ou moins selon notre niveau. Autrement dit, on n'éprouve pas toutes les preuves de la même manière. Et cette idée d'épreuve, ça contiendrait deux autres idées. D'une part, le danger, puisqu'en fait, en confrontant une idée à la preuve, on risque de devoir l'abandonner. On prend ce risque-là. Mais aussi le fait de s'approprier la preuve en première personne, parce que éprouver, c'est faire soi-même l'expérience, et en général l'expérience très forte de quelque chose. Je ne sais pas si ça vous paraît parlant.
Si, c'est très parlant. De toute façon, c'est vrai que ce mot de preuve, vous citiez dans les tribunaux, etc., c'est évident qu'il y a une variabilité totale et que la preuve qui est apportée dans un tribunal... pour revenir aux maths, c'est un autre monde par rapport à une preuve mathématique. Donc, même si je pense à de la physique, je sais pas, mais j'imagine que quand on a pris un objet, qu'on l'a fait tomber un milliard de fois et qui toujours il tombe par terre, c'est probablement une preuve que on peut continuer, que ça continuera de se passer, de se produire. Donc, c'est tout à fait passionnant.
Merci Aurélien, merci à vous chers auditeurs et chères auditrices. On se retrouve très vite sur les ondes de Transistor et pour un prochain épisode de Maths et de mots. À très bientôt.